BFM Business, midi, leur H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans leur H. On va parler d'un très nombreux sujets. On va parler de l'audiovisuel, de la réforme de l'audiovisuel. On va parler du Midcom, puisque je reçois Takis Candilis. Il est directeur général délégué à l'antenne et au programme de France Télévisions. Le Midcom, vous savez, ça commence la semaine prochaine. Il sera en studio avec nous. Évidemment, beaucoup de questions à voir avec lui. On parlera retraite, les cinq conditions de la réussite de cette réforme avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Et puis, dans un instant, on va parler aussi de cette proposition de l'OCDE pour taxer les GAFA. Est avec nous celui qui est un peu à l'origine, celui qui réfléchit en tous les cas à ce qui pourrait être un accord un jour, Pascal Saint-Amand. Pascal Saint-Amand, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Et vous, vous êtes directeur du Centre de politique et administration fiscale à l'OCDE. Vous allez tout m'expliquer, pas complètement compris, donc ça tombe bien que vous soyez là. Pour l'instant, c'est Thomas Portas qui nous apporte l'essentiel de l'info.
On va bonjour, essayer d'être clair. Bonjour Edwige,
merci
bonjour
beaucoup.
À tous. C'est ce soir à nouveau les négociations entre la Chine et les États-Unis qui font la une de l'actualité, puisque la délégation chinoise est en route pour Washington pour deux jours de négociations avec les Américains. Le climat est à nouveau tendu, hein, entre les deux pays depuis que les Américains ont pris des sanctions ces derniers jours contre des entreprises et des officiels chinois impliqués dans la répression des Ouïghours. Quoi qu'il en soit, leur tourne, puisque c'est mardi prochain que Donald Trump doit relever ses droits de douane sur 250 milliards d'importations chinoises. Et c'est dans ce contexte que l'Allemagne annonce ce matin un net recul de ses exportations. Elles ont diminué en août de 1,8% sur un mois, de 3,9% sur un an. Les exportations allemandes reculent deux fois plus que ce qui était attendu par les économistes. Et puis en France, l'INSEE nous dit que la production industrielle a reculé de 0,9% au mois d'août, avec des baisses très marquées dans la pharmacie et le textile notamment. On apprend par ailleurs que les défaillances d'entreprises ont augmenté de 1% à fin juillet. La Banque de France nous dit que les secteurs les plus touchés sont le conseil aux entreprises, les transports ou encore les services financiers. Dans le reste de l'actualité, Sylvie Goulard passe aujourd'hui son deuxième oral devant les députés européens. La candidate française à la Commission européenne doit lever les doutes alors qu'elle est visée par deux enquêtes pour des soupçons d'emploi fictif. Les eurodéputés diront ensuite si Sylvie Goulard est apte ou non à être nommée commissaire. Et puis sur le fond du Brexit, Boris Johnson a rendez-vous aujourd'hui avec son homologue irlandais Leo Varadkar. Les discussions sont toujours dans l'impasse, à une semaine maintenant du prochain Conseil européen. Demain, ce sera au tour du ministre britannique du Brexit, Steve Barclay, de se rendre à Bruxelles pour un entretien avec Michel Barnier. Et puis alors, en attendant l'issue de ces discussions, l'économie britannique donne deux nouveaux signes de ralentissement. D'abord, le PIB britannique, qui s'est contracté de 0,1 point au mois d'août, après avoir déjà reculé de 0,2% au deuxième trimestre. Et puis, Getlink annonce pour le mois de septembre un recul de 7% sur un an du trafic de camions. Et puis pour finir, Michelin officialise la fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon. Elle aura lieu d'ici fin 2020. 619 salariés sont concernés par cette fermeture d'usine. Michelin l'explique par les difficultés sur le marché des pneus poids lourds. Cette annonce tombe alors que l'entreprise avait déjà annoncé il y a à peine deux semaines une autre fermeture d'usine en Allemagne, cette fois avec 858 emplois menacés. BFM Business, il est midi 3. On retourne sur les marchés. À la mi-journée, le CAC 40 progresse de 0,25% à 5 512 points. L'euro-dollar progresse, lui aussi, on gagne 0,39%. 1 euro s'échange pour 1,1027$. On est repassé au-dessus du $10.
Merci Thomas. Thomas qu'on retrouve à 12h30 dans un instant. La question, c'est taxe GAFA. Comment, pourquoi? On voit ça tout de suite avec Pascal Saint-Amand de l'OCDE.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Merci d'être avec nous, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Vous êtes aussi un peu le monsieur paradis fiscaux, si j'ose dire, de l'OCDE.
Anti-paradis fiscaux.
Anti-paradis fiscaux, oui, vous avez raison de le préciser, mais enfin, à mon avis, c'est évident. C'est vous qui êtes en charge, justement, de préparer ce texte sur la taxe GAFA, cet accord qui a donc été initié lors du G7 à Biarritz, et puis qui devrait être présenté lors du G20 Finance, hein, je crois, à Washington le 18 octobre prochain. Donc, c'est la semaine prochaine, ça vient extrêmement vite. Hier, vous avez proposé un peu les grandes lignes de cet accord avec une approche unifiée. Puis-je dire que je n'ai pas tout compris? Donc, je veux bien que vous m'expliquiez en quoi consiste cet éventuel accord et puis peut-être des précisions parce qu'il y a encore quel seuil, vous l'avez plus ou moins dit, mais comment, sur quoi. Donc, voilà. Merci de nous expliquer.
Alors, un peu de background, comme on dit en anglais. La taxation des entreprises multinationales est un vrai sujet depuis des années parce que les multinationales mettent une partie de leurs profits dans des paradis fiscaux. On s'y est attaqué avec le G20, avec un projet qui a produit des solutions en 2015. Dans ce projet-là, il y avait comment est-ce qu'on taxe les GAFA? Et on n'a pas trouvé de solution parce que les États-Unis on dit au reste du monde, désolé, mais on veut pas discuter de ce sujet. Et c'est pour ça que la France, l'Italie, l'Angleterre et plein d'autres pays ont pris des mesures unilatérales. La taxe GAFA, l'Europe a essayé de le faire parce que les pays sont frustrés, ils se disent, on peut pas les taxer parce que les règles internationales nous en empêchent. Alors on essaye aujourd'hui d'avoir une solution qui permet concrètement à la France et à plein d'autres pays de pouvoir taxer une entreprise comme Google en France. Pourquoi aujourd'hui c'est pas possible? Parce que si une entreprise n'a pas de présence physique, elle n'est pas taxable. Alors ce que nous disons, nous, à l'OCDE, après 2 ans de conversations qui n'étaient pas très conclusives, et c'est pour ça que le secrétariat, nous avons pris la décision de mettre sur la table une proposition. Cette proposition, elle dit quoi? Elle dit que pour les GAFA, et aussi pour d'autres entreprises, pas seulement les GAFA...
Ça va toucher beaucoup plus large qu'on ne le pense.
Absolument, ça commence par les GAFA. Eh bien, ces entreprises sont taxables, même si elles ne sont pas présentes physiquement sur un territoire. C'est la première chose. Donc si vous avez un certain volume de chiffre d'affaires, vous devenez taxable. Second volet, combien d'impôts il faut mettre, combien de profits il faut mettre dans les pays où vous avez des activités sans être présent physiquement. Et là, ce qu'on propose, c'est de prendre une partie du profit mondial, ce qui est pour les entreprises les plus profitables, quand il y a plus de 10% de profitabilité par exemple, on va prendre une partie de ce profit mondial et on va le mettre sur les pays de marché. Alors qu'aujourd'hui, ce profit mondial, il est dans le pays de résidence de l'entreprise, les États-Unis pour Google, ou il est dans un paradis fiscal, ou dans un hub pour investissement du genre Irlande, Luxembourg ou autre. Et donc on propose de changer les règles et de mettre un pourcentage de ce profit mondial dans les pays de marché, comme la France. Et de la sorte, on règle le problème des GAFA et, par la même occasion, on règle en partie le problème des paradis fiscaux parce qu'on va retirer des profits d'endroits où ils ne devraient pas vraiment être pour les mettre dans les pays où il y a les consommateurs.
Oui, alors,
est-ce que c'est plus clair?
Oui, la seule chose, c'est on va retirer des paradis fiscaux, c'est qui le ont?
Alors, c'est une très bonne question. Nous, aujourd'hui, ce que fait le secrétariat...
Ça veut dire, celui qui va y arriver, il n'est pas encore né, non?
Enfin, j'espère que si.
J'espère que c'est vous, peut-être.
Ben, absolument. Oui. Et surtout, les États membres. En fait, ce que propose l'OCDE, c'est de changer des règles internationales. C'est quoi les règles internationales? C'est des conventions fiscales, c'est des traités. Il y a tout un réseau, il y a plus de 3000 conventions fiscales. On propose aujourd'hui de les changer en bloc d'un coup. Mm-hmm. Pour le faire, il faut que les pays se mettent d'accord. Pourquoi on a échoué jusqu'à présent? Parce que les États-Unis avaient dit « Désolé, mais on n'est pas d'accord pour changer les règles ». Aujourd'hui, les États-Unis sont d'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé aux États-Unis? C'est bizarre, c'est l'administration Trump, qui n'est pas vraiment multilatéraliste, qui dit « Oui, on est d'accord pour un changement ». Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur réforme fiscale en 2017 et qu'aujourd'hui, ils sont prêts, pour les GAFA et au-delà des entreprises du numérique, à changer les règles pour qu'il y ait plus d'impôts sur le marché. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est un grand marché. Et ils ont aussi intérêt à ce changement. Et donc, c'est l'ensemble des pays. Aujourd'hui, on a 134 pays dans notre groupe qui travaillent sur un pied d'égalité, qui vont devoir se mettre d'accord, on espère, sur notre proposition. Et une fois qu'ils sont d'accord, on aura des conventions fiscales qui changeront toutes les règles.
D'accord. Qui va être concerné? Effectivement, on appelle ça taxe GAFA. J'ai presque envie de dire que c'est par facilité, parce que ça va concerner, en fait, beaucoup plus, à permettre beaucoup plus large. Alors, qui?
Alors, vous avez tout à fait raison. On dit taxe GAFA par facilité, ça va au-delà. Pourquoi ça va au-delà? Ben, parce que le problème de la taxation des multinationales, aujourd'hui, il n'est pas limité aux GAFA. Il est en particulier sur les GAFA parce que ces entreprises sont présentes massivement sur des territoires sans être présentes physiquement. Elles sont présentes commercialement. Netflix, pas un seul employé en France. Pourtant, ils font du profit en France. Donc, on se dit, il faut pouvoir les attraper. Mais ça va au-delà de ces entreprises. La question de combien revient de profit à la France sur des entreprises comme Nike, sur des entreprises comme McDonald's et autres, la question est la même que pour Google, Facebook et les autres. Et donc, ce que l'on propose, nous, à l'OCDE, de mettre dans le champ d'application de cette mesure, c'est toutes les entreprises qui vendent à des clients finaux. On ne va pas prendre ce qu'on appelle le B2B. On ne va pas prendre les entreprises comme Valeo qui vendent des sièges à Mercedes.
Non, mais il y avait, par exemple, la taxe GAFA, elle touchait Criteo, par exemple, qui était une des licornes à la française, qui était sans doute l'entreprise la plus touchée.
Alors, la différence entre la taxe GAFA à la française et notre proposition, c'est que notre proposition, c'est se répartir le profit, quand il y a du profit. Parce que beaucoup d'entreprises numériques, notamment les licornes à la française ou les petites entreprises...
Elle est basée sur le profit et non pas sur le chiffre d'affaires.
Elle est basée sur le profit et pas sur le chiffre d'affaires. C'est une différence fondamentale.
C'est contraire au choix du ministre de l'économie et des finances français. Hein,
alors, je ne crois pas, parce que Bruno Le Maire avait dit, en l'absence de solutions multilatérales, on fait la seule chose qu'on peut faire, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. En connaissant les limites des taxes sur le chiffre d'affaires. Mais ça envoyait un signal fort qu'il se passait quelque chose. Et la France a toujours soutenu une solution à l'OCDE, et Bruno Le Maire, on l'a vu encore récemment, il soutient beaucoup, et hier il a exprimé son soutien à notre proposition. C'est, on veut pouvoir taxer les profits parce que c'est mieux que des mesures unilatérales. Il vaut mieux du multilatéralisme que de l'unilatéralisme.
Oui, alors, bon, donc on sait sur le profit, une taxe de combien? 0,
c'est l'impôt sur les sociétés. Ce dont on parle, c'est que les pays vont récupérer l'impôt sur les sociétés qui leur revient. Et chaque pays décide de son impôt sur les sociétés.
D'accord.
La France est à, je sais pas, 30 et quelques pourcents, bientôt à 25%. Elle prendra 25% d'impôt sur les sociétés, sur cette partie du profit qui aujourd'hui est aux États-Unis ou en Irlande. Eh bien, cette partie du profit viendra en France et la France prendra son impôt sur les
et
sociétés.
Qui va décider, si j'ose dire, de la partie du profit?
Ce sont les États qui doivent se mettre d'accord et c'est ça la négociation. Dans la négociation, il y a se mettre d'accord sur les quanta, sur les nombres. Combien de pourcentage du profit on va mettre dans les pays de marché et à partir de quelle profitabilité on va allouer aux pays de marché, c'est ce que les États doivent maintenant discuter. Et dans notre proposition, il y a aussi ce qu'on appelle la sécurité juridique pour les entreprises, de manière à ce que s'il y a des conflits entre les pays, parce qu'ils veulent tous le même profit, mais ils soient obligés de se mettre d'accord pour savoir qui va taxer et que les deux ne taxent pas. Donc on a cette partie dans la proposition. Pour les Indiens, pour les pays en voie de développement qui sont parfois un peu agressif dans la façon dont ils appréhendent.
Mais par exemple, je suis une entreprise, j'ai 100 de bénéfices, d'accord ? Bon. Il y a les États-Unis, je pense qu'ils passent avant tout le monde, hein, déjà. Il y a les...
Non.
Enfin, bon, dans la réalité, moi, j'attends de voir, mais on va dire non. Mais enfin, en tous les cas, ils ont un taux d'imposition qui est de l'ordre, quoi, aux États-Unis.
Aujourd'hui, ils sont à 21%.
Oui, 21, voilà, j'hésitais entre
suite à la réforme fiscale américaine, ils sont à
21%. Voilà, 21%. Vous avez la France qui est peut-être bientôt à 25, oui. 27. Vous avez l'Allemagne. Je veux dire, on arrive très très vite à 100, donc il faut que chacun... Comment est-ce que chacun
alors,
va dire...
Si une entreprise, je vais prendre l'exemple, votre exemple, si une 100. Entreprise a 100 de profit, oui. Aujourd'hui ces 100, ils sont partagés entre les pays, mais l'essentiel, si l'entreprise est très profitable sur ces 100, l'essentiel il va être aux États-Unis et aussi en Irlande. Mmh. Et en France, vous allez avoir 2 ou 3
de profit. Oui, c'est pour ça que j'ai 0 quelque
d'accord
chose.
Et la, France, et la France va prendre 25% sur ces 3 de profit localisés en France. Que l'on dise qu'on va regarder les 100, et on va dire, pour les entreprises les plus profitables, on va prendre un pourcentage de ces 100 et on va l'allouer à la France et aux pays de marché. Et donc la France va prendre 25% d'impôt là-dessus. Donc on va la prendre des États-Unis ou depuis l'Irlande pour le mettre à la France. Et c'est ça le changement qu'on propose, d'autant plus qu'il s'appliquera même quand une entreprise aujourd'hui n'est pas taxable. Netflix n'est pas taxable en France. Demain, elle sera taxable en France parce qu'il y aura un nouveau nexus.
Mais alors, il y a un gros problème parce qu'on parle de Netflix. On en parlera du reste tout à l'heure avec le numéro 2 de France Télé, attaqué scandaliste. C'est que Netflix, ils disent pas, comme Facebook, ils disent pas combien ils ont de personnes abonnées en France.
Alors, justement, vous avez tout à fait raison.
Mais des chiffres confidentiels.
Vous avez tout à fait raison et c'est pourquoi notre solution prévoit des obligations déclaratives. On a maintenant un niveau de coopération entre États, il n'y a plus de secret bancaire, il y a de la coopération entre tous les États qui travaillent chez nous, il y aura des obligations. On a mis en place en 2015 une obligation de déclaration pays par pays. Chaque entreprise est obligée de déclarer pays par pays son chiffre d'affaires, ses employés, ses profits. Donc ça fait partie des obligations. Et là, on a des vrais instruments pour vérifier que c'est bien appliqué.
Vous serez prêt le 18 octobre ?
Alors, le 18 octobre, on est prêt. On espère bien que le G20 va dire c'est une bonne base de négociation. La vraie question, c'est comment la négociation prend place. Et le but, c'est d'avoir un accord ferme d'ici le mois de juin 2020. Donc on a 7-8 mois devant nous pour arriver à un vrai accord au niveau ministériel et ensuite il appartiendra à l'OCDE d'appliquer, de faire des nouveaux instruments internationaux pour que ça s'applique.
Les règles, est-ce qu'elles ont séduit les réactions des Américains ?
Alors c'est ça qui est très intéressant. On a évidemment, avant de rendre ça public, testé avec la Chine, les États-Unis, l'Inde, la France, l'Allemagne, les grands pays, mais aussi les pays en voie de développement qui sont membres de notre groupe. Et la réaction, c'est une bonne base de négociation. Donc on espère que la négociation va prendre place.
Et ça, en termes diplomatiques de l'OCDE, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, c'est bien, on ne veut pas être engagé tout de suite, mais on va vraiment discuter. Donc c'est positif.
Vous pensez que les Américains, alors qu'il y a une campagne présidentielle, alors qu'on voit bien que certains grands acteurs... soutiennent en fait de facto Donald Trump, mais qu'on sait qu'il y a une grande partie de la Silicon Valley qui est contre Donald Trump, vous pensez qu'ils vont accepter ça ?
C'est un vrai paradoxe.
Avant l'élection américaine ?
C'est un vrai paradoxe. La réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur réforme fiscale.
C'est enregistré, hein,
absolument.
C'est podcasté.
La réponse est oui. J'étais à Washington il y a 15 jours, j'ai vu les PDG d'un certain nombre d'entreprises, de Coca-Cola, American Express, j'ai vu des gens à la Maison-Blanche, des gens au Trésor, on est en discussion avec eux, au Sénat et à la Chambre. Les États-Unis sont favorables parce que ce qu'ils voient, c'est des mesures comme la taxe française GAFA partout dans le monde fleurir et ça ils n'aiment pas et ils préfèrent une solution multilatérale. Ils ont fait leur réforme fiscale, ils n'aiment pas les mesures unilatérales et il y a un soutien du business et c'est pourquoi les États-Unis aujourd'hui sont favorables à une solution aussi paradoxale que cela puisse paraître.
D'accord, juste en fait pourquoi vous ne restez pas sur le chiffre d'affaires ? qui était presque la mesure la plus simple quand même.
Ben non, parce qu'une taxe sur le chiffre d'affaires, c'est pas une bonne taxe. C'est
oui,
une taxe par défaut. C'est une taxe par défaut.
Oui,
on peut comprendre pourquoi elle est prise, mais c'est par défaut. Pourquoi ? Ben parce que vous taxez des entreprises qui sont déficitaires. Vous taxez des pertes et souvent c'est passé au contribuable. Donc celui qui va supporter la taxe, c'est le consommateur. C'est pas l'entreprise. Et donc c'est des mesures par défaut dont on peut comprendre qu'elles soient nécessaires, qui ont fait bouger un peu les choses, comme la taxe française. Mais c'est pas des bonnes mesures et tout le monde est d'accord là-dessus, y compris la France. C'est pourquoi ils soutiennent une solution multilatérale.
Eh ben merci. Quand vous aurez votre texte,
est-ce que c'était plus clair ?
Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. En même temps, je me sens qu'il y a un vaste champ quand même de négociation, hein, comme vous dites.
C'est un peu compliqué. C'est pas fait.
Oui, c'est pas fait. Mais en tous les cas, bravo. Si vous y arrivez, merci Pascal Saint-Amand d'avoir été avec lui, avec nous. En l'occurrence, un peu le monsieur fiscalité de l'OCDE, on va dire ça comme ça. Merci. D'évasion fiscale. Merci. Dans un instant, on parlera de la réforme des retraites. Là aussi, l'OCDE a son opinion. On en parlera avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Il met 5 conditions pour la réussite de la réforme.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Merci d'être avec nous, Jean-Hervé. Je vais dire toujours beaucoup de questions, mais là, on va peut-être se concentrer sur la réforme des retraites, parce que vous avez signé une tribune où vous dites qu'il y a 5 conditions pour réussir cette réforme des retraites. Est-ce que la première, c'est pas simplement que le régime soit à l'équilibre ? Je me prends pour Emmanuel Macron.
Vous êtes comme si. Moi, je pense que la vraie question, c'est la première question, c'est est-ce que les actifs et la jeunesse de ce pays consacrent plus ou moins ou plus de 14% de la richesse nationale pour les retraités. Alors je veux dire, hier c'était, il y avait un débat formidable qui avait été monté où Delevoye était aussi bon qu'à l'ordinaire et vraiment exceptionnel dans sa présentation.
Mais qu'on peut citer en l'occurrence LCI. Hein.
Et je dois dire que la question a été posée, est-ce que on met 14? Ce qu'on oublie de dire, c'est que moi je suis ravi, je suis un vieux, je suis retraité, je suis ravi que si on met 20%, tant mieux. Mais dans la réalité, il faut bien que quelqu'un le paye. On arrive à la question que vous posez, c'est les actifs, les jeunes. Est-ce qu'un pays peut fonctionner avec l'idée que une très, mettons, un cinquième de toute sa richesse produite est destinée à, j'allais dire, à faire vivre les retraités, c'est une question, d'autant plus qu'on oublie l'élément complémentaire, c'est qu'il y a un énorme sujet financier qui est celui de la dépendance, qui sera de l'ordre, voilà.
Gigantesque. Et vous êtes, on va rappeler que vous êtes un spécialiste de la société du vieillissement, hein, justement. Mais à point, donc. 14%, on va rappeler, c'est grosso modo ce que pèse le système de retraite dans le PIB français, d'accord?
Donc. Qui est supérieur à ce que tous les autres pays font.
Oui, de 4% à peu près, de 4 points, comme on dit. Mais aujourd'hui, il est en déséquilibre, notre système de retraite.
Oui, il est en équilibre aujourd'hui
et demain.
Il va être, mais sur des ordres de grandeur qui sont, je veux bien qu'on se concentre là-dessus, mais on dit ça va être 5 milliards, 10 milliards. En réalité, c'est un bout du sujet, mais c'est pas la fin du monde non plus. Donc, c'est un argument qui est utilisé aujourd'hui par les uns, par les autres, mais dans le fond, le sujet est en réalité de second ordre, le déséquilibre dans les 3-4 ans qui viennent, de mon point de vue.
D'accord. Bah, donc, si c'est pas une question financière, j'ai envie de dire, mais pourquoi le président se lance dans une telle réforme ? Bon, c'est la réforme à points, c'est
attendez,
gigantesque.
On va
progresser par rapport à vos conditions. De conditions, vous dites, il y a un seuil de 14%, faut pas le dépasser.
Faut pas le dépasser. Mais si on passe à 15% non plus, c'est pas la fin du monde. Mais je veux dire, il faut pas que ce pays soit entièrement dédié à financer les retraités. Et je rajoute que les retraités, c'est pas du tout une classe homogène entre quelqu'un comme moi qui a un mode de vie tout à fait agréable et la petite dame qui est au sixième étage et qui se demande si elle peut avoir se payer sa baguette de pain. C'est, il y a quand même le jour et la nuit. Donc, on va le voir, c'est une des conditions minimum, un revenu minimum.
Alors, voilà. On va revenir là-dessus. La question que vous dites aujourd'hui, il y a une question de justice sociale. Il faut rapprocher le système privé du système public ou le système public du système privé. Mais il y a certains régimes qu'il faut laisser en dehors, il ne faut pas l'unifier tout de suite.
C'était voilà, très frappant.
Step by step, quoi.
C'était step by step. Le vrai sujet qui concerne 90% des gens, ce sont les salariés, publics et privés. Il faut essayer, en 10 ans, de les rapprocher, parce que Macron a raison sur un sujet, c'est le poison de la société française. Chaque Français pense que son voisin est mieux traité qu'il ne l'est. Donc, et ça fait maintenant 25 ans qu'on discute inlassablement, bien au-delà des problèmes d'équilibre, le fait que les retraités vont gagner, vont avoir une des pensions moins importantes. Et nous, nous disons, on va bien voir pour les avocats, on va bien voir pour les pharmaciens qui, par ailleurs, vont vendre une officine à la fin, on va bien voir pour les tous ceux qui, en réalité, sont des indépendants. C'est très compliqué de faire ça, et vouloir mettre tout le monde dans le même paquet, de manière, j'allais dire, unique, simultanée, dans le même coup, c'est une des raisons qui feront que cette réforme ne se fera pas, parce que vous allez avoir non seulement les régimes spéciaux, ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, mais on va avoir tous les régimes de tous nos dispositifs, de notaires, de pharmaciens, qui vont...
Donc on commence par les salariés, quoi.
On commence par les salariés.
Cela dit, c'est pas simple, hein, parce que dans les salariés, il y a de la fonction publique, il y a la question des profs, il y a la question des instituteurs, c'est pas le même régime, hein, déjà. Vous avez la question de l'armée, donc les militaires, vous avez la question... On voit bien que c'est très compliqué. Puis en plus, il y a un système très injuste, en l'occurrence dans le secteur public, si on essaie de le mettre à la sauce du privé.
Alors, dans le deal qui est, semble-t-il, sur la table, c'est que le public, on lui enlève cet avantage qu'il a de prendre les 6 derniers mois de carrière comme base pour donc le niveau le plus élevé qu'il a eu de son rémunération. Mais en contrepartie, on met en place et on rajoute tout ce que sont les primes. Par exemple, les universitaires hospitaliers, ils ont deux salaires. Mais on met les deux salaires dans l'affaire. Donc, il y a cet avantage-là. Il y a un problème, c'est que le million de profs, ils n'ont pas, en réalité, de primes. Donc, eux, ils sont uniquement perdants. Et donc, il faut trouver une solution. C'est un des gros problèmes. Il faut trouver une solution. Hier, Delevoye disait, enfin, il le dit tous les jours, il faut améliorer les rémunérations des profs. Il a raison.
Oui, mais ça, c'est un coût aussi. Donc,
voilà. Énorme.
Bon, en tout cas, ça, c'est la première étape. Ensuite, vous dites, effectivement, et le président a levé un petit peu le voile lorsqu'il était à Rodez en disant qu'il faut une retraite minimum. Alors certains, il a parlé de 1000 euros, d'autres disent qu'il faudrait que ça soit le numéro du SMIC. Vous, pour vous, c'est une étape importante. C'est la deuxième étape fondamentale.
Fondamentale.
Les Français comprennent bien, en fait, l'essence même de cette réforme.
Et puis, parce que c'est vraisemblablement le dispositif le plus inadmissible de notre société, qu'une personne de 75, 80 ans, qui risque en plus de se retrouver avec une maladie neurodégénérescente, des problèmes de simplement de vie, se retrouve en réalité dans des conditions financières incroyables, qui lui permettent pas de survivre, c'est quand même pire qu'un jeune de 25 ans qui, dont on se dit, au fond, il y a quand même plusieurs années pour qu'il récupère, c'est pas bien.
Oui, mais
voilà. Donc okay. C'est une condition sine qua non pour qu'une réforme passe. Sine qua non.
Oui, sauf que là, on a déjà dépensé quelques milliards. Parce que vous dites, il faut augmenter les profs, il faut intégrer les primes, il faut augmenter les instituteurs, voire les
infirmières, réforme,
etc. C'est... Donc ça fait déjà, je sais pas si vous l'avez chiffré, ça fait quand même quelques milliards.
Mais je les étale sur... La réforme, elle se va se faire sur 10 ans, 15 ans. Donc on l'étale.
Mais après, même ce revenu universel minimum, là aussi, ça coûte de l'argent d'avoir...
Bien sûr que ça coûte de l'argent.
Il suffit d'écouter tous les témoignages de retraite d'agriculteurs qui vous disent « j'ai 343 euros par mois ». Donc, c'est sûr que c'est un coût.
Bien sûr que c'est un coût.
Oui.
Mais le problème, vous le voyez bien, c'est que en écoutant des débats comme celui qui a été mené par les débats qui ont été menés par Delevoye, personne n'est content.
Ouais.
Donc, et c'est un poison de notre société. Donc, c'est le coût à payer pour qu'on sorte de cette situation qui est une situation en réalité d'un problème non résolu. Je rappelle juste que les différentes réformes, commençant par celle de Balladur, puis les deux réformes Sarkozy puis celle de Hollande, tout ça a correspondu en fait à baisser de manière assez significative les pensions des années qui viennent de l'ordre de 10, 20, 25%.
Donc, troisième mesure, c'est une tribune que vous avez signée, hein, en l'occurrence avec deux autres économistes. Vous dites qu'il faut maintenir une gouvernance paritaire.
Ah oui.
Ah ouais, ça j'ai envie de dire c'est le béaba, mais en même temps on voit que ça va pas être simple. Hein.
Non, mais si vous laissez à Bercy,
ça peut rassurer les
syndicats. On aime tous Bercy. Il y a que des gens formidables à Bercy.
Ouais,
mais si vous voulez
parler pour vous, à mon avis.
C'est pas là. Mais si vous les laissez, si vous ne garantissez pas que le point qui est quand même l'objet des discussions permanentes, le point va diminuer, le point va diminuer, le point va diminuer. Si vous ne mettez pas quelques conditions pour que le point soit en réalité dans un corridor limité. Et deuxième aspect, que ce ne soit pas le ministère des Finances qui décide chaque année le niveau du point, vous êtes sûr que la France entière se lève. Donc il vaut mieux éviter ça. Donc on dit ce sera contrôlé par des partenaires. Alors moi j'ai dit que ça pouvait être des partenaires sociaux, ça peut être de la société civile, ce qu'on veut, mais c'est pas l'administration qui fixe le niveau du point. Seul.
D'accord. Mais ça, c'est point important parce que des fantasmes ou de chiffons rouges par rapport à cette réforme. Hein. En l'occurrence, savoir c'est qui va fixer ce.
Et surtout, il va diminuer.
Point, la valeur de ce point. Oui. Ensuite, il y a juste un point. Bon, le 14%, on a bien compris que c'est de dire qu'on fixe à ça 14% du PIB. Un régime d'épargne retraite, on voit qu'il y a le PER quand même qui existe déjà parce que vous dites qu'on pourrait avoir un régime d'épargne géré par des.
La réalité, c'est que. Mutuels. L'épargne des Français, les 15%, les Français épargnent beaucoup, mais les 15% sont en réalité une épargne d'assez court terme, où là, vous vous souvenez, l'assurance vie, c'est 8 ans, etc. C'est clair que la loi Pacte laisse la possibilité d'allonger cette épargne, mais je trouve que la loi Pacte se fixe comme objectif quelque chose de l'ordre de 300 milliards d'euros, et nous, on considère que c'est très insuffisant, donc il faut lancer une mécanique d'épargne de long terme destinée à la retraite beaucoup plus importante que ce qui est prévu.
Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. On a compris, il faut déminer et encore déminer. Merci d'avoir été avec nous. On verra si vous êtes suivi dans un instant. On change de registre. Je reçois Takis Candilis, numéro 2 du groupe France Télévisions. Il est en charge des programmes. Il y a le MIPCOM qui s'ouvre la semaine prochaine. Beaucoup d'actualités à voir avec lui. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Takis Candilis, directeur général délégué à l'antenne au programme de France Télévisions. Takis Candilis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Beaucoup de questions, je le disais à l'instant, à voir avec vous. Il y a le MIPCOM, hein, qui est quand même le grand rendez-vous de la télé qui s'ouvre la semaine prochaine, avec au cœur justement des débats, toutes les questions c'est autour des plateformes. Hein. Ouais. Vous avez lancé Salto, on va y revenir à mot. Enfin, vous avez mis en tous les cas sur les fonds baptismaux cette plateforme avec M6 et TF1. Puis c'est un peu l'enjeu, c'est comment il faut contrer Netflix, nouveau mode de consommation. Pas mal de questions aussi à voir. Bah, je sais pas, il y a quand même quelques couacs hein, ici ou là sur les programmes de France Télé. Puis la loi sur la réforme de l'audiovisuel public qui vous concerne au premier chef parce qu'il y a la création de ce grand holding France Média avec Radio France, France Télé, l'INA, France Média Monde, une espèce de gros machin justement comme la France adore. D'abord MIPCOM, les enjeux pour vous c'est quoi?
Ben le MIPCOM change et a changé. Pourquoi? Parce qu'effectivement il y a l'émergence de ces plateformes. Ces plateformes achètent des programmes ou présentent des programmes dont ils acquièrent les droits mondiaux. Et le MIPCOM est quand même l'endroit où on peut aller acheter des programmes. Mais dans tous les pays du monde, les télévisions locales sont en concurrence avec des plateformes mondiales. Et la réponse qu'on peut apporter, et que nous apportons par exemple en France, c'est une réponse de production locale. Donc ce qu'on achète à l'étranger, on en achète de moins en moins. Nous achetions traditionnellement des séries européennes, quelques séries américaines. Séries américaines, il n'y en a plus sur le marché. Les networks et les studios ont arrêté de produire pour le marché mondial et produisent quasiment exclusivement pour les plateformes. Donc ça, c'est tari. Et deuxièmement, les séries dites européennes, ben, quand on les présente, les Français préfèrent avoir une concurrence de séries françaises que de séries européennes. Donc, en ce qui concerne la fiction, en tout cas, le MIPCOM est en train de, là aussi, de devoir trouver de nouvelles formules pour pouvoir continuer.
C'est incroyable ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme le multilatéralisme commercial, avec la guerre de tranchées entre la Chine et les États-Unis. Ça, c'est au niveau de toutes les denrées, des voitures, tout ce que. Mais en fait, ça se passe au niveau télé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de protectionnisme aussi qui est en train d'arriver dans les programmes. C'est ça que vous nous dites.
C'est-à-dire que. Aujourd'hui, il y a 6 millions d'abonnés à Netflix, par exemple, en France. C'est 6 millions de foyers abonnés à 45%. Au moment où ils allument la télé, ils vont d'abord voir un programme sur Netflix avant de se rendre éventuellement sur une autre chaîne. Donc, on voit bien que cette concurrence est drastique et très, très forte. Donc, nous, pour exister, on n'existera pas en finançant des séries qui ressemblent à celles de Netflix, ni, malheureusement, parce qu'on n'en a pas les moyens, qui ont des budgets aussi important que celle de Netflix.
Et
donc,
c'est vous
trouvons...
qui me dites ça. Oui. Vous êtes venu dans votre ancienne vie, lorsque vous étiez à la tête de la Garda Production, défendez justement des grandes séries internationales, tournées en anglais avec des metteurs en scène.
Alors, on essaye aussi de le faire.
Ouais, c'est...
Mais le marché
mais
a tellement
ce que
changé.
Vous nous dites, là. Vous...
Le marché a tellement changé. Tellement changé en ces 5 années de l'éclosion de Netflix. Et Netflix n'est pas le seul. En novembre, Apple lance son TV+.
Ouais.
Vous avez en l'année prochaine l'arrivée de Disney. Vous avez HBO, HBO Max. J'étais d'ailleurs il y a quelques jours avec un des patrons de Warner qui disait notre métier a évolué de manière fondamentale.
Et qui est le donc, Warner qui sera l'invité principal justement au MIPCOM, hein, en l'occurrence.
Exactement, oui.
Donc, ça, alors donc j'ai bien compris, c'est qu'à la limite, vous n'allez faire plus que des séries françaises.
Non, on ne fait pas que ça, alors. Puisqu'on a créé un regroupement qui s'appelle l'Alliance.
Ouais.
Et l'Alliance, on a créé ça il y a maintenant plus d'un an, avec la ZDF, donc la chaîne publique, la grosse chaîne publique allemande, et la RAI, qui est évidemment la grosse chaîne publique, la chaîne publique, le groupe public italien. Et ensemble, on s'est mis à coproduire des séries. Donc notre première série est terminée, on en lance une autre en janvier, on a 20 projets ensemble, et on,
donc,
là on se met...
Européens et français.
Voilà, européens, ensemble, ouais. Pour produire des programmes à haut budget, et français quand on doit programmer et produire du local.
Est-ce que ça veut dire que la production audiovisuelle française, voire européenne, a quelque part renoncé à aller concurrencer la production anglo-saxonne ?
Vous savez, quand Netflix met 4 millions de dollars, 5 millions de dollars, 6 000, 10 millions de dollars sur certains épisodes de série, comment les concurrencer ? Comment ? Et est-ce que finalement, ce langage médian...
C'est une défaite
médian,
en race campagne, non ?
Non, pas du tout. Pas du tout, bien au contraire, je pense qu'on a à défendre nous-mêmes nos fondamentaux, notre société, notre manière de vivre, notre culture, notre savoir. Et c'est jamais Netflix qui va le défendre. Donc nous sommes une vraie alternative.
D'accord.
Et c'est plutôt Netflix qui est notre concurrent que nous qui sommes le concurrent de Netflix.
Parce que alors sur Salto, cette plateforme que vous allez lancer, quand la date officielle c'est...
Ça sera, vous savez qu'on a attendu assez longtemps auprès du
ça
conseil
y est,
de la concurrence. On vient de nommer un directeur général. Il est en train de monter ses équipes.
Okay.
Et
lancement
puis on verra. Le lancement, ça sera dans le premier semestre de l'an prochain.
D'accord.
Vous imaginez bien qu'il faut créer une offre. Cette offre va être faite, évidemment, de contenus déjà existants, mais surtout lancer de nouveaux contenus, des originaux, pour exister. Et donc, c'est un travail de longue haleine.
Français. Uniquement français.
Français ou européen, je pense.
Que des programmes français,
non, je pense
qu'il y a,
voire européen. Vous savez, il y a, en France, on a Salto, et c'est une vraie chance d'avoir pu créer Salto. Dans les pays scandinaves, il y a une autre plateforme qui s'appelle TV, Viaplay, qui, elle... est aussi une plateforme avec laquelle, d'ailleurs, les chaînes de télévision locales coproduisent. Il y a des alternatives. Il y en a une en Allemagne. Il y en a une maintenant en Italie. Donc, au-delà du gigantisme, de l'expression unique telle que les Américains la pratiquent, il y a une voie qu'on va utiliser.
Oui, mais une voie étroite, parce que vous-même, vous avez dit qu'il n'y aura pas de replay des chaînes partenaires. Les programmes phares resteront réservés au service de rattrapage de chacune des chaînes. Je cite votre propos, vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit jusqu'à présent. Il y a un catalogue qui sera plus froid. Je veux dire, tout ça, ce n'est pas forcément très très sexy, non ?
Non, mais je pense que, et je sais... Maintenant, je ne suis pas dans Salto, nous en sommes...
Mais vous êtes un des partenaires.
Nous en sommes partenaires, mais vous savez très bien qu'on a créé des Chinese Walls entre Salto et les différentes structures. On s'y est engagé près du Conseil de la concurrence. Maintenant, je sais que les équipes sont en train de travailler sur des offres originales et évidemment, ça passera par des offres originales.
Oui, mais vous, qu'est-ce que vous avez lâché, Monsieur Programme de France Télé, qu'est-ce que vous avez lâché à
Moi,
Salto
ouais.
Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher les gros programmes phares, ils vont rester chez vous
ben, ça dépend. On peut très bien imaginer qu'ils peuvent être en preview sur une durée assez...
courte.
Ou peut-être un peu plus longue.
Ah oui, enfin ça dépend dans quel sens on se met. Oui,
exactement, où on dit tiens tel programme il sera gratuitement et présenté sur nos chaînes linéaires, mais vous pouvez peut-être le retrouver 3-10 jours, un mois avant en preview et puis peut-être après dans une autre période le
retrouver.
Les magazines
n'y seront pas, genre les magazines phares.
Non, je crois
ils ne seront pas là-dessus.
Bon, je crois en tout cas que les concurrents nous l'ont montré, le vrai produit phare. De ces plateformes, c'est évidemment la fiction.
Oui, d'accord. Donc ça, c'est un point important. Quels sont les... Est-ce que vous avez retiré vos programmes de Netflix, vous, France Télévisions ?
Ben, malheureusement, la loi telle qu'elle existait ne nous permettait pas, nous, de les retirer, puisque nous avons un accord avec les producteurs, et c'est ces producteurs eux-mêmes qui, parce que les droits qu'ils nous cédaient étaient limités, qui avaient tout à fait le droit, la loi leur permettait, d'aller les proposer à Netflix. Ouais. Là où on a tiqué plus fortement, c'est qu'en 10% que nous avons financé quasiment intégralement se retrouve sur Netflix 7 jours après avoir été diffusé sur notre antenne et en plus qualifié de Netflix original. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a renégocié avec les producteurs un nouvel accord, ça a été le cas entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, et nous avons maintenant un accord de coproduction, de contrat, qui nous permet d'avoir des droits beaucoup plus étendus sur le numérique, et évidemment, qui correspondent aujourd'hui aux usages.
Donc vous laissez vos programmes, puisque vous avez trouvé une forme d'accord, sur Netflix ?
Non. Oui, ceux qui étaient, oui.
D'accord, non,
les nouveaux, nouveaux n'iront pas.
Oui, les nouveaux n'iront pas. Est-ce que quelle rémunération pour les producteurs dans le cadre de Salto en l'occurrence ? Est-ce que vous avez trouvé un accord ?
Franchement, c'est
une question de rémunération aussi.
Bien sûr, mais ça c'est aux équipes de Salto de mettre ça en place, comme vous le dites et comme on se l'est dit. L'équipe vient d'arriver, elle est nommée, elle est en train de chercher ses cadres. Il y a tout un travail. C'est pour ça que je pense que il faudra un certain temps avant que Salto soit vraiment sur les fonds baptismaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
D'accord, hein, donc c'est vraiment ça sera plutôt la fin du premier semestre.
En tout cas dans le premier semestre certainement.
Ouais. Katakis Candilis, est-ce que vous pourriez négocier quelque part avec Netflix, de manière plus générale, voyez, on quitte le Salto, tout ça. Est-ce que vous pourriez, vous, France Télévisions, je sais pas, je vais citer la phrase de Delphine Ernotte, on peut trouver des accords respectueux avec Netflix.
Les accords respectueux, c'est justement ce qu'on appelle ce fameux holdback. Ça veut dire que quand on produit un programme, il nous faut une durée minimum pour avoir l'exclusivité de ce programme. Et il faut que cette durée soit au minimum entre 6 et 1 an. Si Netflix souhaite diffuser un programme avant cette date, nous n'irons pas.
Est-ce que vous pourriez diffuser des programmes Netflix ou qui un peu comme Canal, qui sont en coproduction.
C'est probablement ce qu'aurait pu être le cas sur certains programmes, parce qu'à l'époque, au tout début, Netflix prenait des droits sur une durée limitée, 4 ans. Ce n'est plus le cas, il prend des droits à perpétuité. Donc ces droits, leur intérêt, c'est de les garder. Ouais. Leur intérêt surtout, c'est aujourd'hui de se préparer à la guerre infernale qu'ils vont mener avec Disney.
Ouais. Ça, cette guerre, ça va plutôt être bénéfique pour vous, pour des acteurs comme
écoutez, nous, en tout cas, on ne fait pas la guerre. Nous, on continue à remplir nos missions. Nos missions, c'est de parler à tous les publics, à tous les Français, et de le faire le plus respectueusement possible, et c'est ce que nous faisons.
Réforme de l'audiovisuel public, parce que c'est forcément assez lié, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de réorganisation et puis beaucoup d'interrogations justement sur ces nouvelles plateformes, le droit aussi de redevance, de producteurs. Certains patrons de chaîne, lors de l'événement qui a été fait à Mediascène, ont dit que cette loi sur l'audiovisuel, elle n'allait pas assez loin. Il y a eu le patron de M6, il y a eu le patron d'ici, Alain Veil, qui a dit la même chose. Et vous n'avez pas complètement d'accord, en tous les cas, avec vos homologues privés.
Écoutez, nous ne sommes pas, en tout cas, dans la même problématique. Nous sommes un service public. À ce titre, on a des missions, mais aussi on a un budget qui est à peu près sanctuarisé. On a une tendance qui est baissière, évidemment, mais tout le monde doit faire des efforts. Et à l'intérieur de ça, on s'est engagé à consacrer la même somme dans les 3 ans qui viennent, jusqu'à 2022, pour la création, soit 420 millions d'euros. Donc, et on a signé, en l'occurrence, avec les producteurs, un contrat qui nous permet d'obtenir les droits que nous souhaitions, c'est-à-dire ces droits numériques dont on se sert sur notre plateforme France.tv, ou en preview, ou après, derrière, en FreeVOD. Donc, l'accord qu'on a passé avec eux, pour nous, est un accord satisfaisant. Et d'ailleurs, Delphine Ernotte a redit que cet accord primerait sur la loi, puisque la loi est là pour pousser les producteurs et les diffuseurs.
Avec ce que dit la loi audiovisuelle, non ?
Non, puisque la loi, et d'ailleurs le ministre Franck Riester l'a dit, ces décrets d'application de la loi sont là pour pousser les partenaires à trouver des accords. Mmh. Et on est toujours mieux à trouver des accords entre partenaires plutôt que d'essayer de se faire une guerre de tranchées. Donc nous, globalement, nous sommes contents de cette loi. et surtout content des accords que nous avons passés avec les ayants droit.
D'accord, comme quoi c'est vous qui êtes content et c'est le privé en l'occurrence qui l'est moins. Alors, sur juste un mot, parce qu'on en a beaucoup parlé, sur ce grand holding France Média qui va regrouper donc tout l'audiovisuel public, hein, en l'occurrence, tous. Il y avait une question sur l'INA, en fait, non, l'INA sera aussi intégrée.
Je crois, oui.
Qu'est-ce que ça va vous apporter?
Écoutez, en tout cas, je pense que ça va apporter quelque chose aux Français.
Ah bon?
Pourquoi? Le travail que nous avons fait...
L'augmentation de la redevance, non?
Non, mais justement, peut-être une meilleure utilisation de cette redevance. Nous avons fait un travail depuis une vingtaine de mois à France Télévisions, avec Delphine Ernotte. C'était de repenser complètement notre organisation. Vous savez qu'on a été organisé en chaîne, très autonome.
Très verticale.
Voilà, très verticale, France 2, France 3, France 4, etc. Et on s'est dit, remettons le programme et nos publics au centre et imaginons que les chaînes de télévision, comme les plateformes, comme nos chaînes, nos antennes numériques, sont des moyens de toucher les Français, mais ne sont pas des finalités. À partir de là, on a réorganisé l'ensemble des services de France Télévisions, et ce qu'on a fait au niveau de notre groupe peut tout à fait être fait au niveau de l'ensemble des groupes du service public. Donc je pense que la tâche de cette holding, ça va être d'organiser. Est-ce que finalement, il est normal que nous faisions des podcasts et que d'autres fassent de la vidéo? Comment travailler ensemble?
Est-ce qu'on pourrait avoir un même service de podcast pour l'ensemble du groupe?
Est-ce qu'on n'est pas plus puissant quand on est concentré au même endroit? Bon, alors, c'est pas moi qui fais la loi, c'est pas moi qui sera évidemment dans cette holding, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront a priori bien.
Takis Candilis, comment ça va se passer l'arrêt de France 4 et de France O? Est-ce que certains programmes justement qui existent pour l'instant sur France 4 ou France O pourront venir sur les chaînes qui restent?
Alors, c'est un travail que nous faisons déjà, que nous avons déjà lancé, notamment, alors prenons France O par exemple. France O, c'est évidemment une chaîne nationale France O, mais c'est aussi 9 chaînes dans les départements et territoires d'outre-mer. Nous allons créer une plateforme numérique qui va d'ailleurs régler un certain nombre de problèmes de décalage horaire. Vous imaginez bien que l'amplitude des programmes produits dans les premières, c'est énorme, puisqu'on commence en Polynésie et on termine au fin fond de l'océan Indien. Donc, on va concentrer ça aussi dans une plateforme numérique, mais on a intégré un certain nombre de programmes à l'intérieur de nos offres linéaires actuelles, en prévision de l'extinction qui aura lieu en septembre prochain. C'est quoi? C'est tous les jours un magazine ultramarin sur France 3, c'est les news ultramarines juste avant le journal de 13h sur France 3, c'est des documentaires.
Et pour France 4, d'accord, on a compris, pour France 4?
Alors pour France 4, on est effectivement en train de repenser ce que sera notre offre en septembre prochain, là où aussi on va éteindre, à la demande du gouvernement, le signal de France 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, on crée une plateforme. Cette plateforme va être lancée d'ici la fin de l'année, au coût, sur lequel il va y avoir d'énormément de moyens. Et je pense que cette plateforme sera une très belle plateforme pour enfants. Mais nous devons de garder une place sur le linéaire pour les enfants. Et donc, nous allons ouvrir des cases sur nos offres linéaires supplémentaires pour aussi toucher les enfants.
Offres linéaires, c'est France 2, c'est France 3, c'est France 2, c'est
France 5.
Voilà, France 5.
C'est nos trois chaînes linéaires qui restent.
Donc France 4 s'éteint au 1er septembre 2020, il y a le canal...
Septembre 2020.
Septembre 2020. Donc le canal est disponible. C'est là où il y a tout un enjeu pour savoir à qui va revenir le canal 14. Hein.
Bah, ça, c'est entre les mains du CSA. Comme vous le savez, c'est eux qui gèrent l'attribution des fréquences. Et évidemment... j'imagine qu'ils sont en train de se mettre en place, bien sûr, pour voir comment réattribuer. Alors, ça passe peut-être par l'ouverture de certaines fréquences, mais ça passe aussi par le passage en HD d'un certain nombre d'autres. Vous savez que sur les multiplexes, tout n'est pas en haute définition et que c'est quelque part une redisposition des fréquences.
Et est-ce que, vous voyez, c'est ici à BFM qu'on en parle. En l'occurrence, vous êtes candidat pour que France Info, votre chaîne d'info, en l'occurrence, aille sur le canal 14 ou pas forcément?
Bon, alors je m'occupe d'énormément de choses au sein de France Télévisions.
Mais pas de ça.
Mais évidemment, France Info doit être présent dans les canaux.
Dans la TNT.
Elle y est déjà et elle fait très bien son travail. travail.
Télématin, qu'est-ce qui se passe à Télématin avec tous ces chroniqueurs qui démissionnent, ces pleurs à la télévision, des chroniqueuses et des chroniqueurs habillés en noir? C'était quand même une émission phare, en l'occurrence,
c'est une émission phare.
De France 2.
C'est une émission
qu'est-ce
phare.
Qu'est-ce qui se passe?
Et elle continue à l'être. J'ai regardé, évidemment, tous les matins, je regarde les audiences. Et l'audience ne fléchit pas et les Français se retrouvent toujours. Il y avait 49 chroniqueurs dans Télématin. Nous avons décidé de transférer, ils étaient intégrés à France Télévisions, et on a décidé de les transférer dans la filiale de production qui s'appelle France Télévisions
Studio. Avec des salaires de moins de 30%,
tout dépend ce qu'on compte dans les salaires, effectivement, parce que on est en tout cas dans les salaires du marché. Non, mais je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 11 chroniqueurs
énorme,
sur 49. Qui sont partis, 6 sont partis parce qu'ils ont pris leur retraite, et le problème se pose sur 5 d'entre eux. Voilà, c'est pas... On a traité les gens le mieux possible, on leur a proposé de se recycler et de se... dans cette nouvelle émission, et 38 d'entre eux sont là, et sont bien là, puisque tous les matins, Télématin continue à apporter son lot de programmes et de nouveautés.
C'était un faux problème.
Oui, je pense que c'est un faux programme, mais vous savez très bien que la presse aujourd'hui adore parler et reparler.
Oui, enfin, il y a des images fortes quand même, qui scandalisent. Après, comme vous dites, c'est la télévision. Donc, pour ça,
vous savez, quand une émission a 30 ans et que des gens sont là aussi depuis de nombreuses années, le marché a changé, la concurrence s'est amplifiée, il faut aussi qu'on amène au public de nouvelles choses, de nouvelles têtes. Voilà, c'est malheureusement la vie.
Il y a eu aussi la fin de Soir 3, donc qui a basculé sur France Info, en l'occurrence. Est-ce que vous maintenez que c'était une bonne décision, c'est une décision à prendre?
C'est une très bonne décision. Primo, parce que ça a amplifié évidemment l'audience de France Info, et notamment créé un carrefour qui n'existait pas en tant que tel, et qui maintenant est regardé par... entre 2 et 3 fois plus de monde que ça ne l'était auparavant. Et la deuxième chose, c'est que ça a libéré les soirées de France 3 qui maintenant, par exemple, il y a 2 jours, dans la fiction, on a mis 2 fictions de suite et qui font, elles aussi, monter nos audiences. Donc l'un dans l'autre, ça fonctionne très
bien. Encore une toute petite question là-dessus, sur les programmes spécifiques. Les championnats du monde d'athlétisme, une petite déception en termes d'audience, il faut dire que c'est compliqué. Hein,
tout à fait.
Vous assumez. Vous en tirez quoi comme enseignement pour les autres
Deux choses. Primo, il faut que les Français gagnent pour que ça marche. Et là, on avait malheureusement des équipes qui peut-être n'étaient pas assez préparées. Et c'est bien dommage.
C'est un euphémisme.
Voilà.
Pardonnez-moi.
En tout cas, c'est bien dommage. Et nous qui sommes évidemment les diffuseurs des Jeux Olympiques,
2024,
de 2020, on espère vraiment que. Et on accompagnera avec toute la puissance du groupe.
Mais donc vous dites quoi là? Vous dites au secours, il faut qu'on fasse quelque chose. Comment vous allez vous.
C'est pas de notre ressort. Il y a des dirigeants, il y a des directeurs de techniques, etc., qui doivent effectivement tirer les leçons de ça. Moi, ce que je peux dire en termes
de programme,
c'est que j'ai trouvé que les images, la retransmission des images était approximative. Voir ces bouches d'aération en permanence sur toutes les images ne m'a pas fasciné. Ne m'a pas fasciné autre mesure. Et surtout...
c'était surtout une catastrophe, ça. Les gradins tout vides.
Voilà, les gradins vides, etc. Et surtout, ce qui se passait, c'est qu'avec le décalage horaire, le prime, finalement, les épreuves s'arrêtaient à 9h30. Et après, si vous avez des gagnants pour les plateaux qui suivent, tout va bien. Mais si vous avez des perdants, c'est vrai que les Français n'ont pas envie
Tokyo aussi, c'est compliqué. Oui. Tokyo.
Ah oui, mais Tokyo, c'est flamboyant. Les JO, c'est une grande tradition. On est très heureux, évidemment, de les accueillir tous les 4 ans. Et surtout, très, très heureux de les avoir en 2024.
Merci beaucoup, Takis Candidis.
Merci à vous.
Vous expliquer que l'heure, c'est l'heure. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Le directeur général délégué en charge du programme de France Télévisions était donc notre invité avec ce MICOM la semaine prochaine. Merci beaucoup. On se retrouve, nous, dimanche, BFM Politique, BFM TV. Et puis lundi, bien sûr, 8h15, 12h, 13h. Bonne journée.